le 7-9.
Listen anywhere.
Huawei Duba.
وحده من سوريا.
Sur France Inter.
Il est là et bien là. Bonjour Pierre.
Bonjour Nicolas.
Les incertitudes américaines alimentent le débat sur l'autonomie de l'Europe.
Oui, à l'approche de l'élection américaine, un débat feutré a traversé l'Europe quand beaucoup estimaient que Joe Biden avait un boulevard devant lui et que Donald Trump ne serait bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Il y avait la tentation de considérer qu'une Amérique amicale et protectrice allait être de retour et que le discours sur l'autonomie stratégique de l'Europe devait passer au second plan. C'est peu dire que les premiers résultats ont douché cette idée, avec d'un côté la résistance plus que réelle du président sortant et de son nationalisme « America first », et de l'autre, un Joe Biden à la peine et qui, même élu en fin de compte, devrait compter avec un pays divisé, un Sénat hostile et des priorités assurément domestiques. Cette incertitude américaine a remis sur la table le débat européen sur l'autonomie stratégique en faisant valoir que la relation transatlantique, la défense de l'Europe et sa place dans un monde changeant ne pouvaient pas être les otages tous les quatre ans de quelques milliers d'électeurs du Wisconsin qui, au demeurant, ne se sentent guère concernés par ces enjeux. Avec une Amérique qui ne connaît plus le consensus, le risque est devenu trop grand.
Et quels sont les termes de ce débat ?
C'est une tribune publiée à la veille du scrutin présidentiel sur le site américain Politico par la ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, qui a le mieux incarné cette tendance à l'apaisement, clairement écrite dans la perspective d'une victoire de Joe Biden. AKK, comme on surnomme cette femme politique qui fut un temps désignée pour succéder à Angela Merkel, a intitulé son texte « L'Amérique, l'Europe a toujours besoin de l'Amérique ». Et elle écrit « Les illusions à propos de l'autonomie stratégique européenne doivent prendre fin. Les Européens ne seront pas capables de remplacer le rôle crucial de l'Amérique comme garantie de sécurité ». Ce texte a fait réagir car s'il dément quelque chose qui n'est pas sur la table, personne ne propose réellement de remplacer l'Amérique. Il montre que les vieux réflexes acquis sous le parapluie américain ont la vie dure. D'autres voix se sont toutefois exprimées pour nuancer ou contredire la ministre.
C'est en Allemagne, Pierre, que ce débat est le plus fort.
Oui, Nicolas, et c'est logique. L'Allemagne est le pays européen le plus traumatisé par la présidence de Trump. Antipathie entre le président et la chancelière, menace permanente de guerre commerciale, absence de concertation. Il y a donc à Berlin une partie de la classe politique qui souhaite un retour au monde plus apaisé d'avant que pourrait incarner Joe Biden. Mais c'est sans doute une illusion. D'abord parce que l'Amérique a changé et n'est plus disposée à conserver la même posture internationale. Et d'autre part, parce que l'Europe ne peut pas réduire son ambition au rôle de partenaire junior d'une alliance dont le patron n'est plus aussi motivé. Le résultat disputé de l'élection aura finalement une vertu, replacer les Européens face à leurs responsabilités. Et cette leçon vaut quel que soit le vainqueur à l'arrivée.
Pierre Haski, merci. Dans un instant, le grand entretien de France Inter avec Arnaud Montebourg.
Trouvez votre futur employeur avec Région Job. Envie de travailler plus près de chez vous? Plus de 100 000 offres d'emploi sur le site et l'appli Région Job. France Inter réchauffe vos soirées.
Bonjour, c'est Dominica. Si le cœur vous en dit, je passe ce jeudi la soirée avec vous.
L'heure bleue, Very Good Trip, côté club, Dominica prend le contrôle de France Inter. À la veille de la sortie de son nouvel album, Vie étrange.
Toujours à la même place.
Je serai l'invité, le disque jockey et même le rédacteur en chef. En dépit de la période, faisons en sorte que l'art, la culture, continue à circuler.
Dominica.
Ce soir sur France Inter. De 20h à 23h.
Une banque qui appartient à ses clients, ça change quoi pour les pros? Vous êtes ostéopathe et votre cabinet vient de subir une inondation. Alors sachez qu'au Crédit Mutuel...
Ils font les massages à votre place.
Avec Multipro Crédit Mutuel, on vous verse rapidement une avance sur indemnisation pour que vous puissiez redémarrer au plus vite votre activité.
Oh, d'ailleurs, j'ai un peu mal au dos, moi.
C'est ça, être assureur mutualiste. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8 millions de clients sociétaires. Infos et conditions en caisse de Crédit Mutuel proposant ce service et sur creditmutuel.fr.
Merci d'écouter France Inter, il est 8h21.
France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin un ancien ministre de François Hollande. Il était en charge de l'économie et du redressement productif. Il est aujourd'hui entrepreneur et il publie chez Grasset L'Engagement. C'est un récit à la première personne sur ces années-là et plus largement sur ses engagements politiques. Amis auditeurs, vous aurez la parole d'ici une dizaine de minutes. 01 45 24 7000. Arnaud Montebourg, bonjour.
Bonjour.
Ce livre, au fond, pose une question. Comment le politique peut-il reprendre le pouvoir sur l'économie, la faire tourner au service des citoyens méfiants, voire défiants à l'égard de nos dirigeants? Ça, c'est la question de fond. On va y venir très en détail, Arnaud Montebourg, dans quelques instants. Mais d'abord, quelques mots, évidemment, sur l'élection aux États-Unis. Pas de vague démocrate, mais une course très serrée où Trump a fait bien plus que résister. Joe Biden, ce matin, se rapproche de la barre des 270 grands électeurs et donc de la victoire, mais on n'y est pas encore. Quelle analyse politique faites-vous, Arnaud Montebourg, de cette élection américaine? Quels enseignements, peut-être, pour ce côté-ci de l'Atlantique aussi, à l'instant T?
D'abord, je dois dire merci de votre invitation, que je n'ai aucune espèce de sympathie pour le personnage Trump. Et je crois que dans l'intérêt des Français, de la France et même du monde, nous avons intérêt à ce qu'il soit battu. Mais si on enlève la question de nos propres intérêts et du regard qu'on porte, il y a pour moi dans la très forte résistance Trump un plébiscite pour la force. C'est-à-dire qu'en fait, derrière la force, il y a la protection de toutes les couches sociales qui ont été abandonnées dans le système économique mondialisé depuis 20 ans. Et dans le protectionnisme que défend Trump, qui est dans ses engagements? Qui l'a respecté? Donc c'est ainsi intéressant que l'engagement politique, finalement, crée de l'obligation pour ceux qui vous ont fait confiance de revenir voter 4 ans plus tard en vous soutenant encore parce que vous avez respecté vos engagements. Donc il a écouté son peuple, il a respecté ses propres engagements et il a exercé d'une façon erratique, chaotique, presque funambulesque, clownesque presque, pourrait-on dire, vu d'ici, il a exercé la force. La force, y compris contre l'économie. Moi, j'ai été frappé de voir que les œuvres complètes, de, par exemple, de l'ALENA, c'était le traité de libre-échange entre Canada, Mexique et États-Unis, qui avait été créé par Bill Clinton. Il l'a démantelé en disant, bah, écoutez, tous les travailleurs mexicains, si vous voulez, vous, General Motors, toute l'industrie automobile américaine, continuez à délocaliser et réimporter vos voitures sur le sol américain, vous serez obligé de payer vos Mexicains, vos travailleurs mexicains, au même prix que le salaire minimum de Californie, $16 de l'heure. Parce que $16 d'ailleurs, hein, c'est pas un petit salaire. Et donc, on voit bien que la stratégie de Trump, c'est de protéger la classe populaire. Donc, en vérité, il a gagné dans tous les secteurs, même dans les, chez les femmes noires. Enfin, on a des statistiques qui montrent que dans la remobilisation de l'électorat Trump, toutes les couches sociales se sont mobilisées pour lui.
Et au fond, est-ce que vous pensez que Donald Trump est un accident de l'histoire, comme certains aimeraient le penser, ou qu'au fond, il est, lui, le trumpisme, ce qu'il représente, un nouveau paradigme des démocraties occidentales?
Pour moi, c'est ce qui est en train de s'installer partout dans la démocratie occidentale, c'est le rétrécissement du monde, c'est-à-dire le retour de la nation, cadre dans lequel doivent s'organiser des compromis pour préserver ceux qui ont été les oubliés des 30 dernières années, des 25 dernières années, c'est-à-dire les classes sociales qui n'ont que leur travail pour vivre. Et donc tous
ça,
ceux...
c'est votre livre, mais...
Non, c'est pas que mon livre, oui. C'est une analyse de Johnson en Grande-Bretagne et le Brexit, qui a augmenté les salaires. C'est l'analyse du trumpisme. Et, excusez-moi, c'est ce que les nouvelles gauches qui vont émerger de cette nouvelle donne vont devoir imaginer, c'est-à-dire une autre façon pour la politique de prendre en main l'économie.
Donc il y a des choses à reprendre dans le trumpisme. Pour
vous. Pour moi, le protectionnisme, c'est, moi j'ai défendu la démondialisation depuis très longtemps. J'ai défendu le Made in France, qui est une forme, j'allais dire, beaucoup plus, j'allais dire, concrète. Du rétrécissement des échanges économiques, c'est-à-dire produisons ce qu'on consomme sur place. Hein.
Votre Made in France ressemble au America First de Trump?
Ah bah, ça me paraît pas être absurde que de dire que quand on est patriote, ce n'est pas une injure. On en a besoin sur le plan économique pour reconstituer nos forces. Et on a besoin pour vivre, tout simplement.
Un mot encore, dans votre livre, vous décrivez un voyage officiel aux États-Unis. En 2013, François Hollande est reçu par Barack Obama. Beaucoup d'élégance, dites-vous, de la part d'Obama à dissimuler qui était le véritable leader, lui-même bien sûr, et laisser croire que les deux pays, France et États-Unis, partageaient un leadership alors qu'Obama l'exerçait en vérité sans partage. Fin de citation. Aujourd'hui, le leadership mondial n'est plus exercé par les États-Unis. Ils ne le veulent plus. C'était déjà sous une autre forme le cas sous Obama. Quelles leçons en tirer pour la France et l'Europe? Est-ce que c'est une occasion à saisir, un moment pour se réveiller?
C'est exactement ça. Les deux empires qui, quand même, sont devenus nos oppresseurs. Excusez-moi, mais c'était Obama dans le livre, c'est Trump aujourd'hui, c'est la même politique, finalement. Quand on se fait écouter par des services de renseignement et qu'on écoute en 6 mois 75 millions de conversations et qu'on n'a pas un mot pour dire « ça suffit maintenant », ça s'appelle, comme dirait la Boétie, la servitude volontaire, ce qu'on étudie dans toutes les écoles françaises. C'est-à-dire que c'est l'habitude d'avoir un grand frère ou un grand oncle qui, finalement, veille sur nous, qui fait que finalement on accepte, y compris ces atteintes à nos droits fondamentaux.
Et là, c'est le moment de l'émancipation ?
Je crois que face à la Chine et aux États-Unis, les deux empires qui nous menacent, qui ont des velléités oppressives, ils nous ont humiliés dans l'affaire Alstom en démantelant, en nous volant en quelque sorte une entreprise, en utilisant les services secrets pour le faire, utilisant le chantage du Department of Justice sur les dirigeants d'Alstom, pour nous arracher une entreprise stratégique. Vous croyez que nous n'allons pas maintenant réorganiser un État fort ? Et c'est tout le sujet de ce livre.
Alors ce livre, vous espérez qu'il sera d'intérêt public. Vous y décrivez, Arnaud Montebourg, l'impossibilité de mener une politique économique volontariste soutenue par un État fort et stratège, une politique de patriotisme économique et de souveraineté. Vous fustigez le poids et l'influence des hauts fonctionnaires de Bercy, ceux que vous appelez les énarques bercyens. Ils incarnent, dites-vous, le cercle de la raison et ils sont, à vos yeux, l'origine du mal. En quoi ?
C'est vrai que s'il y avait un plan social utile dans ce pays à faire, ce serait au sommet de l'État. C'est là qu'est le problème. Parce que vous avez finalement des gens qui sont tous d'accord entre eux, qui s'entraident, qui tiennent et dans la politique. C'est-à-dire, en fait, vous avez des dirigeants politiques de premier plan, président de la République en tête, la moitié d'un gouvernement, qui appartiennent à ce cercle invisible, cercle quasiment secret, d'entraide, et qui défendent les mêmes idées, et dont on ne discute jamais, qu'on ne fait jamais apparaître devant la population. Vous avez les discours, ça c'est pour les estrades, et puis ensuite vous avez la vraie politique. Moi je suis frappé, le directeur du Trésor vient sur le bureau du ministre, il dit, monsieur le ministre, je vous donne la première note, la première c'est la vérité, après on fera ce que le devoir dicte de faire. Voilà. C'est-à-dire que finalement...
C'est un État profond, comme dirait Trump aux États-Unis ?
Ou Emmanuel Macron ?
C'est un État qui a quitté le pays, si vous voulez. Cette oligarchie qui est issue de l'ENA, je ne dis pas que l'ENA est à faire disparaître,
L'ENA est devenue la grande école de l'arrogance.
Qui méprise le pays.
C'est ça. Est-ce que vous ne tirez pas sur une ambulance aujourd'hui ? Tout le monde tape l'ENA, même Emmanuel Macron qui veut la...
Non, parce que ce n'est pas l'ENA le sujet. Le sujet, c'est ceux qui en sont issus et qui sont partout au pouvoir. Et ça, c'est un problème. Vous savez, à la tête d'une administration économique, vous pouvez mettre des universitaires, vous pouvez mettre des entrepreneurs, vous pouvez mettre des syndicalistes. Il y a des penseurs de l'économie. On les a écrasés dans les orientations et les choix. Donc vous avez des gens qui ont appris l'économie dans des polycopiers il y a 20 ans et qui les répètent tous en cœur sans se poser de questions. On a peut-être besoin aussi de construire un État pour qu'il soit fort, a besoin d'être riche, intelligent et avoir un cerveau collectif, ce qui n'est plus le cas.
Arnaud Montebourg, ce livre, je le disais en commençant, est aussi une relecture des années du quinquennat François Hollande. Avant son élection, au début, vous dites « j'y ai cru ». Vous avez cru notamment au discours du Bourget et au fameux « mon adversaire, c'est la finance ». Vous en sortez galvanisé après avoir entendu ça. N'étiez-vous pas un peu naïf ?
Sans doute. L'histoire l'a démontré. Ce livre, c'est la reconstitution des sentiments. C'est-à-dire comment, finalement, on est divisé en soi. Il y a des parts de doute, d'inquiétude, il y a une conflictualité intérieure que j'ai voulu reconstituer. Oui, bien sûr, fallait-il le faire ? Réponse oui. Était-ce une erreur ? Réponse oui aussi. Donc après tout, c'est cette histoire que j'ai voulu partager avec les Français.
Pourquoi ?
S'ils peuvent me lire, malgré la fermeture des librairies. Pourquoi ? Parce que il est important de montrer comment se déroule la mécanique de l'abandon des gens. Moi, c'est ça. Pour moi, les héros de ce livre sont les Français qui n'ont que leur travail pour vivre, qui se sont fait piétiner par des années de politique et qui sont en train de se rebeller. Et je vais vous dire, c'est ça les Gilets jaunes. Et moi, dans la version, j'allais dire, initiale, sincère des Gilets jaunes, je suis d'accord avec eux. Moi aussi, j'aurais pu aller sur un rond-point pour dire exactement les mêmes choses. D'ailleurs, la bagarre de l'austérité européenne, les 15 milliards que, sur lesquels je me suis battu et qui m'a fait quitter le gouvernement, et d'ailleurs, j'étais volontaire de le quitter, contre l'austérité européenne, reprise en cœur par les énarques berciens, président de la République et Premier ministre en tête. Eh bien, c'est les 15 milliards que Emmanuel Macron est obligé de lâcher après les émeutes des Gilets jaunes. Donc c'est la même histoire qui se continue.
Oui, enfin aujourd'hui, on a un plan de relance de 100 milliards d'euros qui est sur la table. Donc l'austérité, on n'y est plus.
Alors, non. Je ne parierais pas que les 100 milliards ont une réalité, une existence.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, en fait, ce sont des dépenses qui ne sont pas opérationnelles. C'est surtout un plan de baisse d'impôts pour les grandes entreprises, pour l'instant. Ce n'est que ça. Est-ce que ça, c'est un plan de relance ?
Franchement,
je ne le crois pas.
Vous résumez les 100 milliards, les 30 milliards pour la transition écologique, les aides à la relocalisation, 1 milliard pour la relocalisation des entreprises.
Non, mais je les ai étudiés. Je vais vous dire, je les ai même pratiqués, parce que j'essaie de l'utiliser. C'est appel d'offres, appel à projet, enquête préalable, il y en a pour 3 ans. Donc il n'y a pas de relance en 20 ni en 21, il n'y en aura pas. Et d'ailleurs, ce sont des dépenses qui ne sont pas opérationnelles.
Arnaud Montebourg, pardon, mais l'inventaire de François Hollande que vous faites dans ce livre, des années Hollande au pouvoir, vous l'avez à peu près tous fait à gauche. Pourquoi ce livre aujourd'hui ? On a 18 mois d'une élection présidentielle, la gauche est à terre, elle ne s'est pas relevée. Pourquoi revenir une fois de plus sur le quinquennat d'Hollande ? Quel est le but, au fond ?
D'abord, le quinquennat de Hollande, pour moi, est un prototype, puisque ce n'est pas la question de François Hollande. La personne n'est pas en cause, c'est les situations qui sont intéressantes. Et lorsque j'ai écrit ce livre, je voulais que nul n'en ignore, afin que cela n'ait pas la moindre chance de se reproduire. C'est une leçon qu'il faut tirer pour la suite. Et quoi de mieux dans les préparatifs d'une élection qui est en train de venir, puisque le quinquennat est presque terminé. Emmanuel Macron a presque réalisé son septennat, puisqu'il a commencé en 2014 et va bientôt terminer, entamer sa 7e année de pouvoir. Il est à 6 ans et demi, finalement. Nous sommes donc arrivés à la fin d'un cycle. Donc, est-ce qu'on tire les leçons de ces échecs ? En admettant dans la sincérité des sensations, des sentiments. Je suis un peu, excusez-moi, j'ai écrit un peu comme dans la tête de John Malkovich. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez?
Et donc. C'est vrai, c'est un livre où vous exprimez vos sentiments, vous dites, vous faites vos mea culpa, vous parlez de vos colères, vous parlez de vos. C'est un livre qui est drôle aussi, où parfois vous moquez de certaines personnes et c'est assez marrant. Mais au-delà de ça, quel est le but en fait? Vous voulez dire quoi aux Français avec ce livre-là?
Eh bien que la politique doit se restructurer, c'est-à-dire que dans le système actuel, c'est impossible que les Français puissent avoir la moindre chance d'être entendus. Donc il faut le restructurer en profondeur. Quand je parle de plan social au sommet de l'État, en fait, c'est presque un plan social de la politique qu'il faudrait faire. La réforme de la politique...
Dégagez-les tous, comme dit...
Non, je dirais pas ça, parce que les personnes ne sont pas en cause. C'est le système, en fait. Et donc, la réforme profonde, c'est la réforme de la refondation de la démocratie dans notre pays, que beaucoup réclament de plus en plus largement de leur vœu.
Arnaud Montebourg, on peut dire que le portrait de celui que vous appelez Manu, Emmanuel Macron, est moins sévère que celui que vous faites de François Hollande. Avec Emmanuel Macron, au début, c'est ce que disait Léa, vous vous entendez bien, vous rigolez ensemble. Au fond, c'est quoi le principal reproche que vous lui adressez ? C'est d'être un comédien, de changer de costume, d'avoir des sincérités successives selon les événements, c'est ça ?
J'en fais le portrait à travers Frégoli. Frégoli est cet artiste italien qui remplissait les foules dans les cirques au début du siècle précédent parce que il changeait de costume en 30 secondes, ce qu'on appelle le transformisme, ce qu'a gardé Emmanuel Macron aujourd'hui. Et c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, apparaît ce qu'est, pour moi, le macronisme, c'est une escroquerie politique, au sens où on dit une chose et son contraire. Compilez tous les discours de Monsieur Macron. Et vous n'y comprendrez rien, vous ne saurez pas où on va, et vous saurez surtout une chose, c'est qu'il ne restera que quelques actes dans son bilan. Les actes, c'est quoi ? Quel est le bilan d'Emmanuel Macron ? L'ISF, 2 millions de chômeurs qui arrivent, une gestion catastrophiste, calamiteuse du Covid, parce qu'il y a des éléments de comparaison, hein,
alors,
on peut le faire.
Donc, la prise du pouvoir,
la technocratie, c'est ça le bilan ? Voyez, voilà.
Les 2 millions de chômeurs, c'est principalement dû à la crise du Covid, puisque convenez que la courbe était en train de redescendre juste avant le Covid. Mais sur la gestion sanitaire de cette deuxième vague, vous dites catastrophique. Le reconfinement, là, le chômage partiel, le recours au télétravail, la fermeture des petits commerces et des librairies au nom de la sécurité sanitaire, c'est ce qu'il faut faire ou pas ?
Mais écoutez, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez d'autres pays qui n'en sont pas là. qui ont beaucoup moins de morts, qui ont su apprendre. Donc là, non seulement on a dilapidé les bénéfices de la du premier confinement, parce que par insouciance, on n'a pas préparé la deuxième vague. Mais en plus, la première vague a été gérée de façon catastrophique. Déstockage des masques, mensonges sur les masques, mise en danger des soignants, rupture des médicaments, fermeture de lits, privation de liberté de prescription des médecins,
de terrain.
Ben oui, mais vous aviez dit que c'est une humiliation à l'époque. Et vous maintenez le mot, vous éprouvez toujours ce sentiment.
C'est ce qu'on ressentait. Et aujourd'hui,
aujourd'hui,
les mesures qui sont prises, on est en train d'assassiner des commerçants qui vont être ruinés. On va avoir des suicides sur les bras, et là, il y a une détresse. Parce que vous allez avoir des vagues de faillite en série, et on ne sait même pas si ces mesures sont intelligentes
Arnaud
et cohérentes. Vous voyez,
Arnaud Montebourg, vous avez les chiffres des hôpitaux, vous avez les patrons d'hôpitaux qui vous appellent, vous êtes au pouvoir. Vous faites quoi? Vous laissez les commerces ouverts?
Je vais vous dire, j'aurais préféré fermer les supermarchés, parce qu'au moins ils ont de l'argent pour indemniser leurs salariés, et laisser ouverts les commerçants, parce qu'au moins ils sont un peu plus éparpillés, et ça permet de répartir le risque. Alors que la concentration des supermarchés sont bondés, tout comme d'ailleurs les transports en commun dans les villes. Donc vous voyez bien qu'il y a une incohérence qui montre qu'on a le sentiment d'être gouverné par Kafka. Voilà.
C'est-à-dire?
L'obscurantisme bureaucratique, la fermeture des librairies et le maintien des plateformes. Dans les plateformes, il y a autant de problèmes de promiscuité. D'ailleurs, Amazon a été condamné dans ces conditions. Donc, vous voyez bien que les Français ne comprennent pas. Et vous avez là des dégâts économiques qui, cette fois-ci, seront irrémédiables. Donc, la gestion du Covid, elle induit des destructions économiques et des dégâts sociaux et humains. Vous avez quand même, les associations disent qu'il va y avoir 1 million de personnes qui vont passer en dessous du seuil de la pauvreté. Je vous parle pas des entreprises zombies surendettées, des déficits abyssaux. Donc là, la gestion de tout ça va être très très cruelle pour notre pays.
Alain est au standard. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Montebourg.
Bonjour Monsieur.
Parlons du seuil de pauvreté justement. Je suis quelqu'un de pas très riche, je suis à la retraite et je travaille pour arrondir mes fins de mois. J'ai voulu m'acheter et promouvoir le travail français une paire de chaussettes. 22 euros, monsieur. Alors qu'à la concurrence des grandes marques du discount, ça coûte 4 euros. Comment on peut expliquer aux Français qu'une paire de chaussettes françaises coûte presque 20 euros et à côté, les Indonésiens, les Pakistanais, tout ce qu'on veut, ça coûte 4 euros. Mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste.
Merci Alain pour cette question, Arnaud Montebourg.
D'abord, le Made in France n'est pas toujours plus cher que le reste. Les voitures allemandes sont beaucoup plus chères que les voitures françaises. Dans le textile, c'est vrai, la mondialisation asiatique, puisque vous avez des quasi-esclaves qui travaillent. Donc, si on veut faire travailler des esclaves, c'est notre choix. Mais pendant ce temps-là, c'est sûr que si on paye notre protection sociale, nos lois environnementales, les usines qui sont sur le territoire français sont des usines qui sont performantes et qui font un travail de qualité. Donc, on peut faire des choix, mais il faut toujours mettre en rapport en quelque sorte, autant qu'on le peut avec son pouvoir d'achat. Moi, je suis pas un intégriste du Made in France, hein. Je suis un pragmatique. Autant qu'on le peut, dans les conditions qui sont les siennes, en rapport le citoyen qu'on est, qui veut des PME sur les territoires, des emplois pour ses enfants, des salaires corrects, et l'action d'être un consommateur avisé.
Même question, pas exactement, mais dans la même veine sur l'application France Inter, Benjamin, bonjour Monsieur Montebourg, vous parlez de Made in France, vous fustigez les technocrates de l'ENA et de Bercy, vous encensez le protectionnisme, à quand votre adhésion au Rassemblement National? Bonne journée.
Moi, je suis un homme de gauche, depuis toujours, et je n'ai pas l'intention de soutenir un parti dont nous connaissons l'histoire et la géographie. L'histoire, elle est connue. Moi, mes parents, c'était des militants de la décolonisation. Ils avaient en face d'eux Jean-Marie Le Pen, qui, je le rappelle, a fait l'éloge de la Gestapo, a été engagé dans la guerre de l'Algérie dans des conditions tout à fait considérées comme condamnables. Et donc, cette histoire-là, elle existe encore. Donc moi, je ne vais pas céder un pouce de terrain à ça. Pour moi, le Rassemblement national, c'est le parti de la haine. Or, le pays a besoin du rassemblement. Autour de projets qui nous permettent de rebondir. Nous avons besoin d'un rebond stratégique pour la France.
Votre livre se clôt, Arnaud Montebourg, dans le droit fil de ce que vous venez de dire là, sur une vaste métaphore, celle des abeilles et du fonctionnement d'une ruche. Les abeilles travaillent pour la collectivité, elles ont une organisation, une responsabilité, des tâches, une vie, un destin commun. Et sur ce modèle, vous parlez de la République des abeilles. Les temps appellent un retour au principe d'un raisonnable gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, comme les abeilles, donc tempéré par la raison, la science et l'amour de la vérité. Question très simple. Généralement, quand on pense revenir en politique, on dit « je suis disponible, je me prépare, je prendrai mes responsabilités le moment venu oui. ». Et là, vous nous dégainez une ruche pour formuler une déclaration de candidature ?
Non, pas du tout. D'abord, j'aime la métaphore de du populisme constitutionnel de la ruche. C'est-à-dire, finalement, la constitution de l'organisation de ces insectes sociaux fait que c'est la multitude qui est surpuissante. Et sans multitude, il n'y a pas de réussite. Donc c'est une métaphore pour lutter contre, finalement, ce qu'on appelle l'oligarchie. C'est-à-dire des captures de pouvoir par quelques-uns au détriment du plus grand nombre.
Alors, une fois qu'on a dit ça.
Mais les idées que j'ai portées pendant 25 ans, aujourd'hui, elles sont majoritaires. Elles sont dominantes même. Et la marche du monde les valide. Que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, en Angleterre, la démondialisation, la refondation dans une nouvelle république, le Made in France. Donc, c'est certain, moi je vous parlais très sincèrement, je réfléchis à un nouvel engagement. Ça c'est sûr.
Ça veut dire quoi ?
Ben, ça veut dire que, est-ce qu'il faut laisser les trains passer, rester chez soi devant son feu de cheminée, lire des livres et et d'assurer son confort personnel quand ce pays est en train de s'écrouler ? Ben, la réponse est non, il va falloir s'engager.
Comment ?
À quel moment ? Je n'en sais rien encore. Ce que je sais, c'est que tout. Je vais vous dire, Madame Salamé.
Est-ce que votre décision
attendez,
est prise.
Je réponds jamais.
Allez-y.
Je réponds à vos questions. Je ferai tout pour que ces idées, qui sont aujourd'hui dominantes et majoritaires, arrivent enfin au pouvoir. Il va bien falloir s'en occuper. Je ne sais pas comment je vais le faire. Je n'ai pas encore décidé, mais toutes les décisions que je prendrai d'engagement, d'abord, comme vous le savez, moi je ne suis pas fonctionnaire, je suis pas retraité, j'ai un travail, j'ai des partenaires, des entreprises, j'ai charge d'âme, comme on dit, et donc tout ça, ce sont des décisions personnelles, familiales, qui seront prises le moment venu et sous une forme que je ne connais pas encore.
Est-ce que vous les avez prises, ces décisions ?
Pas encore, Madame Salamé.
Arnaud,
mais comme je l'ai dit à Nicolas Demorand, qui me pose la question à chaque fois que vous m'invitez.
Parce que le doute persiste à chaque fois.
Mais c'est pas grave. Le doute, comme vous le savez, a le droit d'exister, y compris dans mon propre esprit. Ça n'est pas grave. Il faut vivre avec.
Mais à 18 mois d'une élection présidentielle, je reprends les mots de Léa, alors que la gauche est à terre, est-ce que le temps est encore aux doutes et aux interrogations, ou à prendre une fois pour toutes ses responsabilités de citoyen inquiet et de dire « j'y vais ».
Eh bien écoutez, quand j'aurai pris cette décision, je vous passe un coup de fil et ce sera sur France Inter, je vous l'annoncerai.
01 45 24 7000 pour appeler France Inter.
Beaucoup disent que vous voulez pas y aller en fait, que vous faites ça pour occuper le terrain, pour qu'on vous oublie pas, que vous envoyez des cartes postales comme Nicolas Sarkozy l'avait fait à l'époque et que qu'au fond vous irez pas quoi.
Écoutez, c'est une décision difficile à prendre. Je sais ce que ça recouvre parce que j'ai été très engagé à un haut niveau dans l'action publique. Donc c'est normal que on ait des discussions intérieures, hein. Et comme ce livre est c'est l'intériorité dans l'exercice du pouvoir, c'est une manière aussi de dire, dans le partage que je veux avoir avec ceux qui le liront, c'est de cheminer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Voilà, ça fait aussi partie de cette discussion que j'ai avec moi-même.
Allez, pour terminer, une fois pour toutes, Arnaud Montebourg, pouvez-vous nous expliquer cette étrange comparaison que vous faites entre Emmanuel Macron et le chanteur Julien Doré ? Lui-même ne comprend pas, il vous a répondu dans un tweet « Il faut me laisser maintenant, madame ».
On ne comprend pas non plus.
C'était très drôle. Non mais parce que, d'abord, moi j'admire
il
beaucoup.
Il faut purger la dispute.
J'admire beaucoup Julien
parce
Doré.
Que personne ne comprend ce truc.
Non mais j'admire beaucoup Julien Doré parce qu'il a réussi en customisant, reprenant, empruntant, recyclant.
Il compose aussi. Écoutez son album.
Mais dans les origines, c'était ça, quand il gagnait les télécrochets. Oui. Et pour moi, c'est cette première partie de carrière de Julien Doré que je retrouve dans Emmanuel Macron. L'emprunt, le recyclage, le déguisement. Et cette manière d'être, c'est pour moi, Emmanuel Macron, sincèrement, est un véritable chanteur de variété.
L'engagement, le titre de votre récit, Arnaud Montebourg, publié aux éditions Grasset. Merci d'être venu nous en parler sur France Inter ce matin.
Merci de votre invitation.
Et on vous attend
au standard ou dans ce studio, comme vous voulez.